Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Mathieu Boccoté, à invité exceptionnel, émission là aussi exceptionnelle. Mathieu Boccoté, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan,
bonsoir.
La une de l'Incorrect, la culture sous emprise, enquête sur un système contrôlé par la gauche. Et je le disais donc, émission exceptionnelle parce que Mathieu, vous recevez ce samedi soir Sylvain Tesson. Merci d'être avec nous Sylvain Tesson.
Bonsoir.
C'est difficile de vous présenter, on peut dire évidemment écrivain, poète, aventurier, un peu de tout, et même comédien, puisque vous êtes au théâtre tous les soirs, théâtre de poche, face au Cosmos, c'était à 19h. Donc là, c'est pas face au Cosmos, c'est face à Mathieu Boccoté.
Oui, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus inaccessible.
Mathieu Boccoté, pourquoi avoir invité Sylvain Tesson ?
Parce que chaque livre de Sylvain Tesson est un événement non seulement littéraire, mais intellectuel tout à la fois. C'est le point de rencontre entre la philosophie et la littérature, sous le signe de la poésie. Donc on est chanceux. Et c'est l'occasion de le recevoir pour son dernier livre, de Sylvain Tesson, avec les faits. Sylvain Tesson, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois avoir lu tous vos livres, et lisant celui-là, j'ai l'impression que nous sommes dans une quête très particulière. C'est peut-être votre livre, alors j'utilise de moi avec tous les guillemets nécessaires, mais où vous partez à la recherche de la religion de la vieille Europe. Et ce n'est ni le paganisme, ni le catholicisme, mais le point de rencontre entre les deux, et vous croyez trouver ce point de rencontre chez les Celtes.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un miracle d'ordre spirituel. Ce que je dis là est évidemment davantage de l'ordre de l'intuition que de la recherche scientifique et théologique très précise. Mais il faut quand même se souvenir que quand le christianisme est arrivé sur les confins celto-atlantiques de l'Eurasie, c'est-à-dire au bord de la falaise, ensuite il ne pouvait plus continuer, il y avait la mer, enfin il y avait un nouveau monde de l'autre côté, mais il n'avait pas encore été connu. Et le christianisme rencontre le vieux paganisme celtique, et au lieu de s'opposer, il y a une fécondation magnifique qui se passe, et ça s'appelle le christianisme celtique. La fée est versé dans le calice. Ça donne d'ailleurs, du point de vue littéraire, la geste arthurienne au XIIe siècle, qui là aussi est un deuxième miracle, enfin l'écho du miracle, et qui devient un miracle littéraire, avec cette matière de Bretagne magnifique qui continue à enchanter les lecteurs de la geste des chevaliers de la table ronde.
Alors justement, à la rencontre de cette religion, non pas originelle de l'Europe, mais religion peut-être par laquelle l'Europe apparaît, c'est-à-dire le vieux, deux mondes se rencontrent et l'Europe prend forme à travers cela, quel est le propre en fait de ce christianisme celtique, de ce catholicisme païen que vous découvrez à travers le visage de la fée notamment ?
Bien, c'est qu'il y a une articulation entre l'esprit des lieux qui consiste à voir dans les expressions du vivant une manifestation du divin, on peut appeler ça le merveilleux, et puis le dogme chrétien qui voit la création comme l'objet d'un créateur, séparé de son créateur. Et le christianisme celtique réussit à articuler les deux visions du monde qui peuvent paraître tout de même a priori très antinomiques. Dans un cas, toute la valse, l'efflorescence du monde vivant que l'homme traverse est un objet qui a son propre créateur. Et dans l'autre cas, du côté paganique, la nature est le dieu, ou en tout cas est l'émanation propre de l'esprit du Dieu. Et voilà tout à coup qu'on a dans ce christianisme celtique une sorte de mariage, de rencontre des deux visions. Moi, je trouve ça très beau. Et puis, par exemple, je vous donne un seul exemple, mais quand vous voyez l'Église catholique qui met au point, qui structure une cérémonie visant à essayer de faire revenir la pluie sur les champs. Ça s'appelait les rogations autrefois, oui, qu'on pratiquait en Bretagne. On est là dans l'incarnation parfaite, dans l'illustration parfaite de ce mariage de deux sensibilités et de deux considérations du monde.
Alors lorsqu'on vous lit, on a quelquefois l'impression que vous êtes un écrivain voyageur. Vous n'êtes pas par ailleurs un écrivain contre le lieu, contre l'enracinement. Mais vous trouvez souvent d'ailleurs des peuples enracinés, vous les embrassez tout en étant vous-même un voyageur. Et dans votre œuvre, j'ai l'impression que vous avez été chez vous dans trois endroits. En Sibérie, sur les îles grecques, et finalement chez les Celtes ou à l'extrême occident de l'Europe. Est-ce que vous avez finalement trouvé quelque chose comme un chez vous dans ce lieu que vous avez exploré ?
Oui, moi je parle d'abord du paysage, parce que je suis un être, à mon avis, profondément organique et sensuel, et les trois espaces, qui sont des espaces culturels, mais aussi des écosystèmes, font vibrer mon cœur. La taïga russe, les îles de soleil de la Méditerranée, des Cyclades par exemple, et puis cette espèce de miracle géographique qui s'appelle la chute de la Terre dans l'océan et qui est la longue bordure celto-atlantique qui va de la Galice espagnole au Shetland. Et là, vous avez raison, ce sont des endroits où je me trouve très bien. Et peut-être est-ce parce que ces endroits-là incarnent visuellement une forme de fixité. La falaise est là. Elle résiste à la rage de l'océan qui la percute comme un boutoir. La forêt froide, la grande taïga de l'Eurasie, elle est là, en vivant la gifle tellement violente des amplitudes thermiques annuelles, entre les moins 50 de l'hiver et les 40 degrés de l'été. Et puis les îles, elles sont là, baignées de soleil, enfin avec cet autre miracle qui est le ruissellement de la lumière sur ces miettes de marbre blanc. Et là, je trouve une fixité qui peut-être corrige le relatif désordre, ou en tout cas l'agitation physique dont je suis affligé.
Arthur de Vatrigan.
Justement, on parle beaucoup de post-histoire. Est-ce que nous sommes également entrés en post-géographie ? Et à votre avis, en quoi la géographie façonne-t-elle plus l'homme que l'histoire ?
Mais là, vous posez des questions qui sont beaucoup trop difficiles pour moi, qui ne suis qu'une surface. Moi, je ne suis qu'un viveur lunaire qui fait des ronds dans les bassins, comme disait le poète. C'est-à-dire, je suis comme un voilier. Moi, je traverse les surfaces en laissant un minuscule sillage. C'est ça, ma trace, qui se referme immédiatement. Alors là, vous me posez des questions sur la post-géographie et la post-histoire. La seule chose que je puis dire, c'est que, bien sûr, je ne crois pas que les sociétés ou les êtres soient déterminés, c'est-à-dire maudits par leur géographie. Je crois que leur âme, que leur psyché intérieure peut être, bien entendu, influencée. C'est sûr, il y a certainement une empreinte que laisse le milieu, enfin l'écosystème, utilisons des termes de géographe, que laisse l'écosystème sur la vie intérieure. Et je crois que le fait de vivre depuis des millénaires au bord d'une falaise où l'on voit le soleil mourir tous les soirs, revenir peut-être le lendemain, une falaise au pied de laquelle on voit le mouvement de l'océan qui s'évertue pour une raison mystérieuse à essayer de faire tomber la falaise, et je pense qu'on développe un esprit, peut-être une culture, et certainement une sensibilité qui n'est pas la même que lorsque l'on vit au cœur d'une forêt figée dans la continentalité. Oui, ça me semble tout à fait banal ce que je dis. Laurence Durel, si vous voulez, le disait beaucoup mieux que moi. Ça nous aurait en plus permis, ça vous aurait épargné 5 minutes d'élucubration. Laurence Durel disait « Nous sommes les enfants de nos paysages ». Je le crois un peu, et je le crois surtout quand je suis plongé dans un paysage aussi violent de beauté que celui de la côte atlantique.
Alors quittons le domaine des élucubrations de mon ami Vatrigan pour toucher une question qui touche le réel le plus puissant, les faits. Alors c'est le titre de votre ouvrage, Avec les faits. Qu'appelez-vous les faits ? Le surgissement du merveilleux à même le réel, la part d'émerveillement lorsque le regard se fixe sur le monde. Vous nous dites avec les faits, que sont les faits et les avez-vous rencontrés ?
Mais en fait, ma réponse était dans votre question, comme d'habitude. D'ailleurs, avec Bocoté, le problème c'est qu'on devrait se contenter d'opiner du chef. ou alors de faire un très léger geste de dénégation. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Mon propos n'est pas très original, sauf que moi j'incarne ce qui me sert de pensée, enfin les conclusions auxquelles j'arrive, par le mouvement. Mais les faits, c'est exactement ça, c'est une émanation c'est un saisissement du cœur, mais à condition qu'on ait exercé le regard à faire apparaître les conditions de ce saisissement. C'est donc une attention qui est portée au monde physique que l'on traverse et qui ressortit d'un exercice, d'un effort, de la volonté. C'est-à-dire qu'on fait une clé de bras au monde réel en disant « je veux qu'apparaisse quelque chose ». C'est-à-dire c'est l'anti-indifférence. Le voyageur qui veut chercher le merveilleux s'efforce partout de le convoquer. Et à ce moment-là, il apparaît. Alors évidemment, il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres. Ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la côte celtique qui s'avance vers l'ouest et qui tout d'un coup se fracasse devant le crépuscule, est évidemment davantage propice à l'émanation du merveilleux qu'une plaine indéterminée et bétonnée, par exemple. Puis il y a un deuxième motif, c'est qu'une géographie qui a été longuement labourée par l'histoire, la légende, la mythologie, une géographie où s'est produit l'infusion du mythe sur le sol, bien entendu, sera certainement plus capable, si je puis dire, de faire apparaître le merveilleux que vous désirez en avançant.
Alors, ce que vous me dites me fait penser à cette phrase que je crois que l'on prête à Talleyrand, mais je n'en suis pas certain, mais je crois que c'est Talleyrand, lorsqu'on dit, bon, je doute lorsque je vais, je ne suis pas certain de croire en Dieu, et la réponse c'est faites semblant, hein, priez et ça viendra. J'ai l'impression que vous dites qu'il y a une éducation du regard qui est possible, mais de quelle manière dans le monde qui est le nôtre, rationalisé, quantifié, mathématisé, un monde intégralement quadrillé par le rationalisme, de quelle manière éduquer son regard pour être capable de faire surgir les faits?
Il faut commencer par essayer de se débarrasser des instruments de l'ennemi. L'ennemi étant... qu'est-ce que l'ennemi? L'ennemi étant... l'impératif de nous soumettre à l'énorme entreprise d'encerclement technique. Si vous commencez par éteindre un écran, à ce moment-là, vous aurez plus de chances de voir ce qui se passe par la fenêtre. Quelque chose qui me semble assez simple. Moi, je crois beaucoup. Enfin, cette phrase de Talleyrand qui peut sembler un peu bravache, parce que ce sont ce genre. Il y a beaucoup de formules comme ça, qui sont les formules de convocation de la volonté comme seul instrument de l'homme qui serait en fait responsable à la fois de son malheur, de son sort et de son destin. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, on aime bien ces phrases-là, parce qu'effectivement, on se dit, empoignons le gouvernail de nos barques et menons-les là où on le veut. Alors, il y a une phrase du même ordre, mais dans le champ de l'esthétique de la vie, qui est une phrase de Rilke, de Rainer Maria Rilke, et que moi j'ai vraiment fait mienne, où Rilke dit si vous n'aimez pas, enfin il dit pas, je ne cite pas exactement la phrase, mais c'est une phrase qui nous invite, si on n'aime pas, si le monde ne nous convient pas, il faudrait d'abord peut-être commencer par changer notre regard sur le monde. C'est un peu ça l'expérience de la quête de la fée. C'est une expérience esthétique qui consiste à essayer de recommencer l'union de l'œil avec le réel. Et c'est en faisant ses dévotions, en ayant une révérence pour la nature, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne que nous, beaucoup mieux organisée. Le cosmos, quoi, c'est-à-dire l'équilibre parfait, quoi, cette espèce de perfection magnifique, alors qui n'est pas forcément d'ailleurs apaisée, qui peut être très violente, mais qui au moins est fixe, quoi, et qui corrige l'agitation personnelle. Alors c'est peut-être cela que l'on peut demander au regard, et c'est peut-être, là je réponds à votre question, c'est peut-être par là qu'on peut commencer à essayer de ramener à soi la fée.
Arthur de Vatrigan.
Il y a votre pèlerinage en rive celtique, vous fait alterner systématiquement marche et navigation. Et justement on a l'impression qu'on peut trouver ce secret des faits ou ce secret celtique uniquement dans cette oscillation, dans cette ambiguïté. Et à la fin du livre, on dit qu'il y a quand même une sagesse qui est à l'opposé total du manichéisme de notre monde moderne, un manichéisme d'ailleurs dont vous avez été une victime il n'y a pas si longtemps. C'est quelque chose que vous aviez anticipé ou justement c'est quelque chose que vous avez découvert dans cette oscillation entre marche et navigation?
Non, mais moi, l'oscillation entre la marche et la navigation, d'abord, je n'en fais pas une théorie métaphysique ni politique. C'est plutôt, j'apprécie là un mode de vie et même un mode opératoire du voyage que je trouve extrêmement efficace. C'est le mode opératoire amphibie. consistant à passer du pont du bateau au bivouac dans la lande et puis à redescendre sur la crique pour regagner le bord et repartir. C'est ce que font peut-être les fées. C'est ce que faisaient les Celtes quand ils cabotaient. C'est ce que font les nageurs de combat, sauf que moi, je le fais d'une manière beaucoup plus civile et puis sans aucun enjeu, puis beaucoup plus facile. Mais c'est un mode opératoire qui est merveilleux parce que d'abord, il évite le grand malheur de l'homme qui est l'insatisfaction et la lassitude. On est toujours content de regagner le bord et de regagner ses amis à bord, et puis on est toujours content de les quitter quand on regagne la lande. C'est merveilleux. C'est un mode opératoire très joyeux. D'ailleurs, il n'y a pas de grenouille dépressive. Est-ce que vous avez déjà vu un crapaud neurasthénique ? Non. Ce qui prouve que, vous voyez, là, je vous donne des arguments scientifiques pour vous montrer que le mode opératoire amphibie est toujours le meilleur. Alors après, vous avez raison. Il y a un moment où on ne peut pas vivre que dans l'oscillation. Et le changement de milieu, comme disent les alpinistes, ça n'est pas une vertu. Et moi, je ne l'érige pas en mode de vie. J'en fais un mode opératoire. Après, moi, je trouve effectivement une valeur immense, une vertu immense dans le choix d'une présence. Mais c'est autre chose, parce que là, je ne parle plus de monde naturel. Je ne parle plus du passage entre la mer et la lande avec ce fil tellement mystérieux qui s'appelle le littoral.
Alors, le voyage est une quête, et la quête, vous la nommez comme telle, en évoquant la légende arthurienne, c'est le Graal. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, sans forcer le trait, qu'à votre manière, vous avez repris cette quête tout en trouvant des définitions, non pas contradictoires, mais qui se succèdent les unes aux autres du Graal dans votre livre?
Oui, parce qu'on est obligé de chercher la définition du Graal, étant donné que Chrétien de Troyes, au XIIe siècle, dans ses romans, ne la donne pas. Il procède avec le Graal comme le Lao Tzu avec le Tao, c'est-à-dire que le Graal pourrait presque être le Tao occidental, c'est-à-dire c'est ce qui existe tant qu'il n'existe pas. À ce moment-là, la quête du Graal devient une sorte de fusion entre le substantif, la quête, et son complément d'objet direct, le Graal. L'un est dans l'autre, si je puis dire, c'est-à-dire que le Graal finit par devenir le fait de le chercher. Alors on est obligé de trouver une définition. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le calice serti de diamant qui a servi à recueillir le sang du Christ ? Ou au contraire d'ailleurs peut-être une petite coupelle d'argile tout à fait modeste qu'un être a tenu sous les gouttes de sang des plaies du Christ ? Est-ce que c'est la symbolique de nos meilleures vertus, du meilleur de nous-mêmes vers lequel il faudrait tendre ? Je ne sais pas, je cherchais. Jusqu'alors, moi, je croyais que c'était le mouvement, le Graal, que c'était la quête. Et c'est pour ça que, éperdument, j'ai moissonné depuis des dizaines d'années les kilomètres en me disant, tant que j'avance, c'est que j'ai trouvé quelque chose. Et puis, vous voyez, il faut quand même être assez stupide pour attendre 50 ans, enfin 52 maintenant, avant de comprendre que le Graal, c'est peut-être précisément le moment où on a trouvé une raison de s'arrêter. Et il n'y en a qu'une, au fond. Et dans la littérature comme dans le champ intérieur, il n'y en a qu'une raison de s'arrêter. Il n'y a qu'un Graal et c'est l'amour. Alors voilà, vous vous rendez compte, moi je vais finalement de banalité en banalité, sauf que j'ai besoin de faire beaucoup de kilomètres un peu extravagants pour arriver à ces banalités-là.
Mais alors, je reviens en essence sur la formule du Graal. Vous dites le Graal, c'est l'amour. Mais dans la longue histoire européenne, en fait, la figure du Graal, c'est d'abord l'idée d'une quête à toujours reprendre d'une manière ou de l'autre. C'est ce qui est capable de mettre l'homme en mouvement. Il n'est plus dans la contemplation, justement, du cosmos simplement, mais il se jette vers quelque chose. Et c'est un principe d'action et de moteur.
Mais bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que la quête arthurienne est une expérience, et même plus qu'une expérience, c'est un événement de littéraire qui peut-être fonde le roman moderne, ou en tout cas la lecture moderne. Parce que voilà que le lecteur, ne sachant pas ce qu'est le Graal, et comprenant qu'il devra toujours, comme le chevalier arthurien qui part à travers la forêt pour vivre des épreuves, afin de chercher cette inaccessibilité du Graal, eh bien le lecteur devra toujours reprendre sa lecture. Et elle ne sera jamais la même. Et les romans de Chrétien de Troyes peuvent se lire à toutes les époques de sa vie et ils auront une autre couleur selon la couleur que revêtra notre cœur, notre âme aux différentes époques de notre existence. Donc vous avez raison, c'est le Graal, c'est le mouvement, parce que seul le mouvement peut permettre à l'homme de se métamorphoser. C'est en tout cas la leçon que nous donnent les chevaliers arthuriens. Mais il n'empêche qu'il y a un moment, si on considère que le Graal, c'est aussi ce qu'on veut y mettre, parce que c'est tout le génie chrétien de Troyes, d'avoir expliqué qu'une coupe vide bien se remplit de votre propre désir, eh bien à ce moment-là, on peut, à certains moments de sa vie, y donner une définition. Moi, j'ai trouvé celle-là. Je me suis aperçu qu'il y avait un mouvement, effectivement, qui faisait le Graal, mais que ce mouvement menait vers une présence et qu'à un moment, j'avais trouvé la présence.
On revient dans un instant pour cette émission absolument passionnante avec vous, Sylvain Tesson. La suite de Face à Mathieu Bock-Côté, c'est dans un instant, après la publicité. La suite de Face à Mathieu Bock-Côté avec un invité exceptionnel ce samedi soir, Sylvain Tesson. Mathieu Bock-Côté, c'est à vous.
Alors, vous êtes davantage l'homme de la géographie que de l'histoire, davantage l'homme du cosmos, on pourrait dire effectivement que de l'histoire, entendu comme le lieu de déchaînement des passions humaines pour des chimères et des idéaux qui finissent toujours par faire des carnages. Mais on trouve chez vous dans ce livre quelques pages qui relèvent d'une tendresse pour l'histoire particulière. Vous découvrez pendant votre voyage la mort de le décès d'Élisabeth II. Et vous parlez de la tristesse des Anglais qui ont perdu leur règne, qui ont perdu leur souveraine. Et je cite vos passages, « Les Anglais n'avaient pas assassiné leur souverain. À nous autres, Français de la guillotine, restait le rêve au goût de cendre. Je fus triste. »
Oui, c'est vrai que je suis triste. Je me souviens que j'ai appris la mort de la reine lorsque j'étais de quart sur le voilier entre l'archipel des Orcades et l'archipel des Shetland. Il était 2h du matin et le capitaine de mon petit voilier, Benoît Le Théron, est sorti de sa couchette. Moi, je tenais le quart. Il m'a dit « La reine d'Angleterre est morte ». Alors, étonnamment, moi qui la prenais pour une dame à chapeau, enfin comme tout Français normal, quoi, tout Français moyen prend une vieille dame anglaise pour un pot de fleurs avec des jolis renoncules plantés dedans. Eh bien, j'ai été triste et puis j'ai suis arrivé au Shetland, au sud des Shetland le lendemain matin à l'aube. Et à ce moment-là, dans un petit port où il fallait qu'on remette de l'eau potable dans les containers de notre voilier, on a vu un jeune garçon qui était vraiment un employé des pontons de ce petit port et qui était en deuil. Il portait un brassard noir. Et alors, à ce moment-là, ça explosait complètement l'espèce d'idée que le principe de l'attachement à la reine n'était réservé qu'aux classes aristocratiques de l'Empire britannique. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et puis ensuite, sur mon voilier, vous savez, on réfléchit beaucoup à la mort de la reine quand on est de quart sur un voilier. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très beau dans ce principe consistant à dire qu'un seul pouvait représenter tous. Et que dans ce grand principe visant dans la vie des hommes à essayer de s'arracher à eux-mêmes, bien, c'était une option fort valable que de décider symboliquement que toute une collectivité serait représentée par un seul, qui serait à la fois une émanation de tous, un peu plus que tous, mais ça vous affranchit de cette espèce de feuilletage administrativo-politique des corps intermédiaires qui, au nom d'une espèce de démocratie égalitariste, ont finalement créé un millefeuille absolument invraisemblable de petits privilèges et d'acquis maintenus.
Alors je reviendrai sur le thème du retour du roi dans un instant, mais je vous cite une autre fois dans ce très beau passage. « Ainsi donc, à propos de la mort de la reine, « ainsi donc, les peuples des nations, stupéfaits par la magnificence des funérailles d'Élisabeth, allaient-ils se rendre compte de la nécessité de la grandeur ? Bien des Français, contemplant les fastes royaux et l'adhésion de tous à la splendeur d'un seul, se diraient « qu'avons-nous fait ?» Alors je poserai la question, qu'est-ce que les Français ont fait ?
Ils se sont privés d'une certaine forme de grandeur symbolique, je le crois. Ils ont inventé quelque chose qui n'est pas condamnable, parce qu'il y avait tout de même, au moment de la destitution du principe monarchique, la proposition d'autre chose. Il faut quand même voir aussi que dans les grands mouvements de mutation que nous vivons dans nos périodes historiques, bien, il y a des moments où ce qui désinstitue n'a rien à proposer. Là, au moins, il y avait une proposition au moment de la Révolution française, une proposition d'ailleurs qui a fait florès, qui s'appelait la proposition démocratique, mais ça a été au prix de l'abolition d'une certaine forme de grandeur symbolique que d'ailleurs les Français ont immédiatement restauré quelques années plus tard de manière encore plus carton-pâte et encore plus kitsch avec l'aventure du Premier Empire avec Napoléon. Mais ce qui prouve que il y a probablement toujours un besoin de grandeur. Alors, sous la République, ça s'appelle le lambris républicain. On n'arrive jamais à se débarrasser totalement de la dorure. Et sous le plafond des institutions de la République, eh bien, il y a encore des lustres, il y a encore des dorures. Mais au moins, en Angleterre, les Britanniques jouent-ils le jeu de manière tellement... le jeu du roi, d'ailleurs. De manière tellement extravagante, musicale, et en perpétuant des traditions qui, à nous, peuvent sembler tout à fait extravagantes et incongrues. Et moi, je crois que, oui, l'homme a besoin de ce jeu.
Alors, la formule, vous dites, le jeu du roi, c'est un clin d'œil, très beau clin d'œil, une très belle œuvre. Mais ça me fait penser aussi à un autre auteur qui, d'ailleurs, qui est familier de l'univers qu'il vaut dans ce livre, c'est Tolkien, tout simplement, qui nous... Le titre de je crois que c'est le troisième, c'est le retour du roi. Le retour du roi. Et j'ai l'impression que la question du retour du roi est une question bien plus large, presque plus métaphysique que politique, c'est-à-dire devant la division des hommes, devant la fracture des hommes, il y a ce désir d'une figure qui pourrait pour un temps nous rassembler, pour un temps transcender les divisions, puisque par ailleurs, de toute manière, inévitablement, nous nous rediviserons, car l'unité n'est pas de ce... l'unité durable n'est pas de ce monde.
Oui, le retour du roi, c'est l'espérance qui est au cœur de chacun. C'est aussi l'idée de la résolution de ce mystère tellement impossible à démêler qui est celui de l'unité. Comment faire l'unité entre les hommes dans une société? Il y a dans l'arthurisme littéraire le siège de l'espérance. Il y a toujours la volonté que quelque chose revienne. Et probablement, puisque nous parlions tout à l'heure de l'infusion du paysage dans le cœur des hommes, probablement que la longue station pendant des millénaires devant une falaise qui est le balcon du crépuscule finit par donner dans l'âme la couleur de l'attente, de ce qui meurt et de ce qui reviendra, c'est-à-dire le jour. Ce sont quand même les Celtes qui se sont arrêtés sur le bord des promontoires, se sont voués, ont voué leur vie et leur destinée à être les contemplateurs de la mort du roi, enfin, c'est-à-dire du soleil, et puis qui revenaient. Alors il y a beaucoup ça dans l'arthurisme, une espérance. Et il y a beaucoup cela dans le retour du roi. Enfin, quelque chose peut-être reviendra et qui sera notre point d'unité. Et si je peux conclure en donnant juste une anecdote, la veille de la mort de la reine d'Angleterre, mon camarade guide de haute montagne, Daniel Dulac, nous avait rejoint à bord du voilier et nous avions accosté au sud de l'archipel des Orcades et nous avions grimpé, escalader avec nos pitons, etc. On avait ouvert une voie dans la face sud d'un pilier de 165 mètres de haut qui est détaché de la côte comme une colonne de stylite qui s'élève dans le ciel des Orcades, que les Anglais appellent le Old Man of Oi. C'est une forme de relief très particulière, on dirait un cigare planté devant la falaise. Et cette voie que mon copain Daniel Dulac a ouverte, moi j'étais en second, nous sommes arrivés au sommet et nous l'avons baptisé le retour du roi, parce qu'on donne des noms aux voies. Et le lendemain, alors je ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre le fait que nous ayons, baptisé la voie et le fait que la reine soit morte dans la nuit, mais il y avait une concomitance qui était presque d'ordre magique et ça tombait bien parce que tout mon voyage à bord de ce voilier le long des côtes a été baigné de ce nimbe de féerie.
Arthur de Vatrigan.
Mais c'est la grandeur que les Français recherchent ou regrettent. Pour être vieux des Anglais, il faut quand même y aller, ce qui était le cas à la mort de la reine, ou c'est la permanence qui leur manque?
L'une est peut-être le synonyme de l'autre. Ce qui est grand, c'est ce qui dure. Enfin, en tout cas, dans l'ordre esthétique de la contemplation du paysage, il y a évidemment une corrélation entre la grandeur des lieux et leur durée. C'est pour ça que la mer est toujours un spectacle d'immense mystère et d'immense grandeur, parce qu'elle revient et parce qu'elle dure. Et je crois d'ailleurs, puisqu'on en est à parler du paysage et que c'est quand même un thème, moi, qui bat beaucoup à mes oreilles, ce que l'âme humaine doit à la contemplation d'un lieu, il est probable que s'il y a un esprit celtique, si tant est qu'il existe, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à définir ce que veut dire le fait celte. C'est un fait historique qui correspond à une migration du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est surtout un fait philologique, linguistique. Mais s'il y a un autre fait, moi je crois qu'on peut dire que la contemplation permanente de la mer, de cet éternel retour des choses et de cet éternel mouvement, ce qui n'est jamais fixe et qui pourtant est extrêmement présent, ce qui est une surface mais qui cache une profondeur, l'une ne serait peut-être pas antinomique de l'autre, la surface et la profondeur. Eh bien, tout cela a fini par développer à l'intérieur des cœurs qui peuplent ces promontoires atlantiques ce que Jean Marcal, spécialiste des études celtiques, appelait la dynamique de l'être. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. La dynamique de l'être, c'est cette espèce de volonté du mouvement perpétuel des choses et de l'impermanence de ce qui vient se fracasser sur la falaise et qui a peut-être amené beaucoup les Bretons à toujours chercher ailleurs, a toujours voyagé, a toujours levé les amarres, peuple de voyageurs, peuple de conquérants, peuple de grands marins. C'est ça la dynamique de l'être, et ça expliquerait peut-être pourquoi jamais ni les dogmes, ni les théories de coercition politique n'ont réussi à avoir un succès sur les territoires de ces promontoires qui sont régis par la marée perpétuelle des choses.
Alors, vous avez dit quelque chose qui me touche, si je peux me permettre la formule. Vous dites qu'il est très difficile de définir, par exemple, l'esprit celte. On le voudrait-on qu'on aurait de la difficulté à y parvenir? Alors, je suis un homme des sciences sociales et j'en fais le procès régulièrement parce que j'ai l'impression que pour définir l'esprit d'un lieu, l'esprit celte, italien, faites la liste des esprits qui doivent exister en ce monde, les sciences sociales, la sociologie peuvent bien peu de choses, mais la poésie, la littérature peuvent bien davantage. Et je pose presque la question sur le plan de la méthode. Pourquoi finalement la poésie ou la littérature nous permettent bien davantage de comprendre l'esprit d'un lieu que tous les savoirs mis en place depuis un siècle et demi pour être capable de quantifier le monde?
Parce que c'est une intuition et que bien souvent le poète, avec toute sa relative bêtise d'ailleurs, souvenez-vous que c'était le comte de Lille qui parlait de Victor Hugo en disant Victor Hugo était bête, mais bête comme l'Himalaya. Le poète, avec toute sa fraîcheur, sa naïveté, sa rapidité et son intuition, réussit parfois à tirer des conclusions que finalement la science viendra confirmer. Je pense notamment à la récente théorie scientifique américaine, comme d'habitude, sur le fait que les lois d'organisation de la matière dans l'espace sont les mêmes que les lois d'organisation de la matière sur Terre, notamment dans le champ minéral. Et c'est une théorie qui s'appelle la théorie de l'augmentation d'informations fonctionnelles. C'est comme ça que les scientifiques l'ont appelée. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les structures atomiques dans les météorites ou bien sur la Terre, tout va vers une ramification complexe. Eh bien, Victor Hugo, dans Les Misérables, il y a 150 ans, a dit « Qui peut prétendre que le parfum des aubépines soit indifférent aux constellations ?» C'est-à-dire que parfois, il suffit de lire les poètes qui, en un alexandrin, vous en disent beaucoup plus que les longs traités de cosmologie tout à fait scientifiques. Ça permet de gagner du temps, et puis en plus, c'est quand même plus agréable, c'est plus compréhensible. Mais moi, je crois qu'on en connaît autant sur le cosmos en ouvrant un recueil de poésie qu'en se penchant sur la lunette d'un télescope. Alors voilà, je ne fais pas du tout le procès des sciences sociales ou exactes.
Je m'en charge.
Il est, comment ?
Je m'en charge.
Ouais. Mais il est évident que la poésie, par Enfin, ça s'appelle les intuitions de génie des poètes, bien sûr. Et puis alors, en plus, le poète alors, de l'Ouest, en particulier, le poète de l'Ouest, avec toute sa charge de sensibilité, sa vision, le poète qui devient un voyant des choses, parfois réussit par la grâce de sa main, c'est-à-dire de sa musique, de sa main qui tient le stylo, qui est son instrument de musique, réussit à donner des injonctions, des indications et peut-être à produire des alexandrins ou des vers qui deviennent ensuite vos amers, comme dit le marin. Vos amers, c'est-à-dire vos axes de visée. Je ne sais pas, quand le jeune Novalis, à moins de 25 ans, dit « plus c'est poétique, plus c'est réel », il donne une très bonne définition du regard féerique. Et quand Yeats, le poète irlandais dont le combat poétique a mené, indirectement, mais a mené en 1921 à l'indépendance de l'Irlande, c'est-à-dire qu'on est allé là du champ poétique jusqu'à la liberté, quand Yeats dit « considère froidement la vie et la mort et passe ton chemin cavalier », il donne dans un vers très claquant un principe stoïcien pour la conduite de sa vie. C'est magnifique, il faut tout demander au poète, à la fois l'explication du monde, le déchirement des voiles qui vous obstruent parfois la vérité des choses, et puis aussi des grandes devises qui claquent et que vous pouvez broder sur vos bannières pour la conduite de votre propre barque. Enfin, ça me semble évident que les poètes sont les seuls qu'on devrait vraiment écouter avec bonheur.
Arthur de la Trigo. Mais vous, vous vous déplacez sur place. Vous expérimentez, vous découvrez, vous connaissez avec votre corps. Mathieu était un immense lecteur, mais probablement un piètre coureur des bois. Qu'est-ce que pourrait lui dire pour le convaincre d'expérimenter sur le terrain des choses qu'il ne pourrait jamais découvrir ou apprendre en dehors d'être sur place?
Moi, je crois aux deux. Je ne tranche pas entre l'expérience sensuelle, sensorielle, organique, et puis l'électrocution cérébrale, par la découverte d'une vérité ou par la découverte d'un très beau texte qui vous émerveille. J'essaye au contraire de convoquer les deux grandes parts de l'homme, la part physique et la part morale. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on soit moins dualiste. Alors c'est vrai que malheureusement nos sociétés, surtout françaises d'ailleurs, ont tendance à beaucoup couper à cause d'un cartésianisme mal compris ou d'un platonicisme mal exprimé. On a tendance à penser que l'intellectuel doit forcément être légèrement tuberculeux et que l'athlète doit être légèrement débile, quoi, et analphabète. Mais c'est dommage. Moi, je crois beaucoup au coureur des bois qui est aussi un lettré. J'aimerais bien que le clerc soit également un haltérophile, quoi. Ça serait... C'est vers cela que je tends, parce que je crois que non seulement la littérature parfois peut confirmer ce qui a été vécu organiquement, je crois qu'il y a un immense plaisir quand on est dans une vie comme ça très aventureuse de se souvenir qu'un moment que l'on vit ou un paysage que l'on voit, un visage que l'on rencontre, une situation dont on est témoin, de se souvenir de la référence dans sa bibliothèque intérieure et de la mémoire, de se souvenir de la référence que ça réveille. Vous savez, les Anglais ont une belle expression, ils disent « it ring a bell », ça sonne une cloche. C'est comme si ça tire un livre et ça pointe une phrase dont vous vous souvenez. Ça, je trouve que c'est merveilleux.
Eh bien, justement, ça, c'est une chose qui m'a frappé dans votre œuvre. C'est peut-être cela à quelques reprises, mais je le vois deux fois, dans les forêts de Sibérie, et cette fois, vous nous donnez presque un principe de méthode qui m'a passionné sur comment construire sa bibliothèque de voyage. Donc, dans les forêts de Sibérie, vous nous faites la liste des ouvrages que vous avez amenés avec vous parce que vous en aurez besoin dans de telles circonstances. Et là, vous nous indiquez à nouveau, dans un tout autre voyage, un tout autre contexte, quelle bibliothèque vous accompagnera. Alors, je vous demande le principe, la question à la manière d'un lecteur, comment construire sa bibliothèque de véritable voyageur? lorsqu'on part, quels livres doivent nous accompagner?
Je pense que il y a une règle que je m'applique à moi-même quand je constitue ma bibliothèque de bord, que ce soit à bord d'une cabane ou à bord d'un voilier, ce qui est la même chose finalement, ce sont deux vaisseaux de bois, l'un est immobile et l'autre est en mouvement. Je crois que il y a une règle que je m'impose, c'est de prendre toujours une part de livres qui sont aux antipodes de l'atmosphère dans laquelle je suis plongé. Quand j'étais, je me souviens que j'avais Lord Byron quand j'étais au bord du lac Baïkal, ce qui n'est pas tellement, qui est assez antinomique. Eh bien, dans mon bateau, le long de la côte celtique, j'avais évidemment énormément de livres sur les études celtiques, historique, archéologique, philologique, j'avais beaucoup de poésie celto-atlantique, mais j'avais pris également Simenon, parce que je m'étais dit, au bout de 3 mois dans l'Iode, sous la criaillerie des mouettes et la lamentation des phoques de l'archipel écossais, eh bien, il y a un moment, je vais avoir envie de l'atmosphère collante des gares du Nord, lavée de bière. Enfin, le côté de simenonien de ce nord belge et hollandais. Et ça m'a beaucoup plu de faire parfois ces espèces de... C'est un voyage dans le voyage que vous faites par l'esprit en vous arrachant à l'écosystème que vous êtes en train de traverser. Mais enfin, j'avais quand même Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est le service après-vente du sublime, quoi. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qu'il faut dire de manière tout à fait symphonique, il y a Victor Hugo. Pour toute chose, hein. On pourrait faire d'ailleurs une sorte de concordance lexicale pour le bigorneau, l'algue, Dieu, la métaphysique, l'art des nœuds et les étoiles de mer, il y a tout. Il y a tout dans Victor Hugo, donc ça j'avais toute sa poésie. J'avais quelques anglais à la peau très pâle, Wordsworth, Coleridge, Yeats évidemment, et Byron un peu. Et puis j'avais ensuite l'arsenal de la geste arthurienne, de la matière de Bretagne. Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes, commenté par Michel Pastoureau dans un récent recueil intégral du roman arthurien. Et tout ça me permettait de naviguer en toute sécurité, beaucoup plus que si j'avais pris les préceptes de navigation maritime de la préfecture navale. Je les avais aussi.
Il nous reste 2 minutes. Je vous pose une question. Tout ça, vous nous avez dit en fin de première partie que ça vous a pris un peu plus de 50 ans pour trouver le sens du Graal qui vous met en mouvement. À l'origine, vous disiez c'est le mouvement. Et finalement, au terme de ça, vous dites c'est le mouvement vers une permanence. C'est l'amour. Et on comprend en vous lire, et vous l'avez dit, que vous l'avez trouvé. Alors, je vous poserai une question à la fois simple et complexe. Vous l'avez trouvé. Voyagerez-vous encore? Et puisque vous avez trouvé votre Graal, qu'est-ce qui va vous pousser désormais à vous lancer à travers le monde dans les aventures les plus inattendues pour les sédentaires que nous sommes, puisque le Graal est trouvé?
Oui, je l'ai trouvé. C'est-à-dire, j'ai fini par matérialiser la fée, parce que tout ce que je dis depuis quelques minutes peut sembler très vaseux et très abstrait, mais en réalité, j'ai réussi à matérialiser la fée, c'est-à-dire à faire du symbole une réalité. Et c'est ça, d'ailleurs, le principe de la recherche et de l'errance, peut-être. Mais je n'ai pas renoncé à l'idée très arthurienne que l'amélioration de l'homme, non pas sa perfectibilité, mais en tout cas sa métamorphose, passe par le mouvement. C'est en traversant la forêt que le voyageur peut, que le chevalier d'ailleurs, errant peut devenir un autre que lui-même. Or, on a tout intérêt à essayer d'être un autre que soi-même, en tout cas à s'arracher à soi-même, et je n'ai pas renoncé. Alors effectivement, mon mouvement est allé vers une présence, ça s'appelle l'amour, et la fée s'est matérialisée, mais je ne renonce pas, c'est-à-dire je n'ai pas rencontré un boulet. Ni une cellule de moine, ni un cilice, ni une paire de menottes. Si bien que j'ose espérer qu'on peut continuer à partir en sachant très bien, et c'est peut-être l'autre nom de l'amour, qu'un départ est toujours accompagné d'un éternel retour.
Un grand merci Sylvain Tesson.
Merci.
Pour ce voyage d'en face à Mathieu Bock-Côté, je rappelle votre dernier livre, Les Fées. Je rappelle également que vous êtes au théâtre tous les soirs, au théâtre de Poche, pour Face au Cosmos. C'est à 19h. Merci à tous les deux.
Merci Sylvain Tesson.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine. La suite, c'est l'heure des Pro 2. A tout de suite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.